Bonjour mesdames, bonjour messieurs. Nous sommes réunis ici dans ce Magic Mirror. Est-ce que c'est le plus petit de tous? Enfin, il est très, très joli aussi. Pour parler des liens entre l'histoire et l'imaginaire. En fait, le titre, c'est « Raconter des histoires, écrire sur l'histoire ». Ça laisse la porte ouverte à beaucoup de possibilités. Et je vois Xavier Mauméjean qui arrive. Alerte. Ah, il n'a pas l'air d'être sûr que c'est là. C'est ici. Il repart. Alors, ça, c'est pas mal. Voilà. Enfin, Xavier Mauméjean va nous rejoindre dans un instant. Nous sommes ici en compagnie de Stéphane Przybylski. Excusez-moi si j'écorche un peu votre nom. Oui, non, oui.
Donc c'est Przybylski.
Przybylski, voilà, merci. Przybylski, qui est auteur de science-fiction, d'une tétralogie sur l'histoire, qui connaît un joli succès et dont il pourra nous parler tout à l'heure un peu plus en détail. Nous avons ici aussi Frédéric Tabot, qui, lui, est actif dans le milieu du théâtre, donc metteur en scène, réalisateur, enfin, vous avez écrit des pièces, et 6 pièces, et puis, il va nous parler du théâtre et de l'histoire, ça, c'est voilà un sujet qui est très intéressant. Stéphane Mauméjean vient de nous rejoindre, bienvenue. C'est pas facile, ils n'ont pas marqué les numéros sur les Magic Mirror, alors on ne sait jamais dans lequel nous nous trouvons. À côté de moi se trouve Yann Prouillet, qui est historien et qui fait des recherches en particulier sur la Première Guerre mondiale, dont il nous parlera peut-être plus en détail aussi, et qui a publié plusieurs ouvrages, mais qui ne sont malheureusement pas ici, vous allez nous en parler. Et pour terminer, donc Xavier Mauméjean qui nous rejoint, qui lui aussi a écrit énormément de livres, et qui, dans certains de ses ouvrages, a aussi s'est référencé à l'histoire. Et donc là aussi, nous aurons à avoir votre opinion là-dessus. Alors, tout d'abord, j'aimerais poser une question à Stéphane Przybylski et Xavier Mauméjean, qu'une question un peu provocante, n'est-ce pas ? N'avez-vous pas assez d'imagination pour aller chercher vos sujets dans l'histoire ?
L'idée dans l'histoire, c'est d'utiliser l'histoire comme un décor. C'est aussi d'utiliser l'histoire parce qu'elle possède des zones d'ombre. Et justement, ces zones d'ombre, elles permettent de s'engouffrer dedans et justement de développer son imaginaire autour de ces zones d'ombre. J'ai choisi de travailler sur la Seconde Guerre mondiale déjà parce que en tant qu'historien, je maîtrisais plutôt le sujet. Donc, c'était la première idée. La seconde idée, c'était par rapport à cette Seconde Guerre mondiale et à l'époque nazie, c'était de s'engouffrer dans un certain nombre de passages donc non élucidés qui ont fait l'objet de controverses et d'interprétations qui pour l'instant restent des interprétations subjectives. Je pense notamment au départ pour l'Angleterre de Rudolf Hess donc en 1941. C'était la première chose. La seconde, c'était tout ce qui concernait donc l'ésotérisme qui habitait les nazis et la SS en particulier et qui les poussait notamment à se rendre un peu partout dans le monde pour y faire des fouilles archéologiques. Donc dans Le Château des Millions d'Années, le premier roman de ma tétralogie, la tétralogie donc des origines publiée au Bélial et donc dont le premier volume est paru en 2015. L'idée c'était de commencer en Irak en 1939 avec une expédition nazie qui faisait donc une découverte qui lui permettait d'envisager la possibilité de gagner la guerre qui à ce moment-là s'annonçait. Voilà, donc, et je dirais que forcément, à ce moment-là, le contexte historique, justement, C'est un magnifique réservoir et une magnifique porte d'entrée pour justement pénétrer dans un univers, donc là, plus, pour le coup, beaucoup plus science-fictif. Et donc, à ce moment-là, développer donc, tout un univers qui, forcément, appartient plus à l'histoire secrète et à l'Uchronie qu'à l'histoire avec un grand H. Voilà.
C'est intéressant ce que vous dites sur le point de départ parce que, sauf erreur, Joe Walton dans le cercle de Farthing a utilisé le même point de départ.
Tout à fait.
En imaginant que Rudolf Hess parvient à faire une paix séparée avec l'Angleterre.
Oui. Et tout Christopher Priest dans la séparation.
Dans la séparation, oui.
Voilà, donc où là aussi ça nous a donné lieu à échanger pas mal sur certaines tables rondes ici. Donc effectivement, parce qu'on a un personnage en commun avec ce livre, en tout cas c'était Rudolf Hess, donc c'est comme ça qu'on a fait connaissance. Voilà.
Merci. Donc je pose la même question à Xavier Mauméjean. D'ailleurs, vous parliez de la Seconde Guerre mondiale. Moi, j'ai lu Rosée de Feu, qui est une chronique sur la Seconde Guerre mondiale, où les pilotes japonais, ils n'attaquent pas avec des avions, mais avec des dragons. Alors, vous aussi, l'imagination, qu'est-ce que ça vous permet de faire en allant chercher le sujet dans l'histoire ?
Déjà, Rosée de Feu, c'est plus un univers parallèle qu'une chronique, puisqu'il y a effectivement des dragons qui existent, mais pas des dragons de fantaisie, ce sont des dragons que j'ai voulu biologiquement plausibles, et des dragons tout simplement parce que, parlant des kamikazes, ça allait quand même se passer assez souvent dans les airs, donc je voulais confronter les bombardiers B-29, l'hypertechnologie américaine, à la tradition... du Japon, donc les dragons, c'était un moyen de les confronter, tout simplement. Alors, pour répondre plus directement à la question, et sans sortir l'argenterie, il y a quand même une distinction qui m'est chère, qui est celle d'Aristote dans le chapitre 9 de la Poétique, qui parle en même temps du poète et de l'historien. Et pour lui, ce qui distingue... le poète de l'historien. Historien en grec, c'est l'enquêteur, c'est celui qui remonte des effets à la cause, qui reconstitue le raisonnement. Ce qu'il distingue, c'est que l'historien parle du particulier, alors que le poète parle de figure générale. Par exemple, l'historien dirait dans ce village jadis, il y avait un homme qui était fort. Dans ce village, jadis, il y avait une femme qui était belle, un événement particulier. Tandis que le poète, lui, va dire, dans ce village, jadis, il y avait un homme fort comme Héraclès, une femme belle comme Aphrodite. Et là, tout le monde comprend. Qu'on soit du grec, du nord, du sud, spartiate, athénien, tout le monde a saisi. Et en tant qu'auteur, puisque auteur d'imaginaire, ça me permettait d'essayer de joindre les deux, c'est-à-dire à partir de... une activité qui est... Est-ce que c'est une science ? Je ne sais pas. Mais une belle activité qui est l'histoire, donc des événements particuliers, de parler de mythes, de récits généraux. Par ailleurs, tout simplement, j'adore l'histoire. C'est vraiment... on peut se perdre pendant des heures dans des livres d'histoire. Par exemple, pour Rosée de Feu... un plaisir que tout le monde va comprendre ici. À un moment, la décision de faire des pilotes suicides a été prise à tel endroit aux Philippines. Et j'avais 4 témoignages de 4 officiers, soit qui ont écrit leur autobiographie, soit qui ont un enseigne notamment qui en a parlé. J'avais 4 descriptions différentes de la maison où ça a eu lieu. Et notamment un qui insistait sur le fait que les propriétaires de la maison, des Philippins, avaient été virés dans une annexe pour laisser la maison à l'état-major. Donc, en reconstituant à partir de ces 4 témoignages, il y en a un chez qui j'ai trouvé simplement la couleur des volets. Ça permettait... C'est un travail de création qu'on trouve dans le charme et l'évasion, vraiment... que procure aussi, même si ce n'est pas sa finalité première, que procure l'histoire.
Merci. Yann Pouillet, j'ai lu sur le site internet du festival que vous ressuscitiez des villages disparus, que vous alliez rechercher des témoignages du passé. Quel lien avec l'imaginaire ? le travail que vous faites.
Je tendrais à considérer, c'est peut-être un peu pédant, que l'histoire vient en amont de l'imaginaire. Et je pense que dans les différentes tables rondes, dans les différentes interventions, et c'est le cas de ce qui vient d'être dit, avant de construire un récit, il y a cette phase d'accumulation, parfois compulsive, d'informations, y compris de détails. Trouver la maison où a été donc décidé le phénomène kamikaze, c'est une démarche minimum. Mais aller tenter de trouver la tête qu'elle a et la couleur des volets, là, on est vraiment dans l'hyperpointillisme qui va rendre en aval le récit crédible et même le récit plus que crédible, le récit illustré. Parce qu'en fait, c'est plus un travail d'illustrateur que de trouver la couleur des volets que d'un travail d'historien et même, entre guillemets, de romancier. Donc, en fait, ça se nourrit de ces différentes étapes. Et comment a-t-il trouvé la couleur des volets? Il la trouve en essayant de faire une bibliographie des sources, de compulser ces sources et de trouver le détail qu'il cherche déjà, même sans le connaître. Et or, ce matériau, c'est bien un matériau historien. Après, en effet, il s'est posé la question qui, moi, tout de suite, a éveillé ma conscience, c'est le travail d'historien, je ne sais pas si c'est une science. Si, c'est une science. C'est une science, absolument. Parce que d'abord, elle nécessite de mettre en place une méthodologie de découverte et de recherche. Elle met en place une méthodologie critique fine parce que tout support écrit, oral, texte, image, etc. n'est pas une réalité historique. Ce n'est qu'un élément. Et c'est de l'ensemble du matériau critique que l'on dégage une approche d'une réalité que l'on n'a pas vécue. C'est-à-dire qu'en fait, la meilleure façon de faire de l'histoire, ce serait, et comme cela est dit, la seconde qui vient de se produire est déjà de l'histoire, eh bien, c'est de fixer immédiatement le tableau de ce qui a été fait dans la seconde qui se passe. Or, les historiens, plus ils travaillent sur une période ancienne, et plus ils sont tributaires des matériaux sur lesquels ils travaillent. Et ça leur enlève, de fait, non pas tout esprit critique, au contraire, mais ça leur enlève justement tout esprit de remplissage, c'est-à-dire en fait tout esprit de fiction. L'historien est peut-être l'antithèse de l'auteur de fiction. Et donc, il y a peut-être un lien de subordination, de continuum, qui est celui que d'abord, avant de créer une fiction, on fait d'abord son auto-histoire. Et donc, de fait, on cherche le matériau.
Donc, vous situez avant, vous faites dans cette recherche d'informations pour pouvoir ensuite développer l'imaginaire.
En fait, l'historien ne part pas dans son processus de recherche dans l'optique de nourrir ou de construire un imaginaire. Au contraire, l'historien part du principe que l'imaginaire doit être écarté pour justement approcher dans un pourcentage le plus élevé possible la réalité d'un fait passé. Et ça, là encore, je reviens sur le fait que l'imaginaire a finalement assez peu sa place, parce que on peut penser que cela se fasse comme ça, mais tant que la source n'a pas été trouvée, et encore je corrige immédiatement ma phrase à dessein, les sources opposables, critiquables, recoupables n'ont pas été découvertes, eh bien ça n'est pas de l'histoire, c'est de la possibilité historique.
Frédéric Tabot, vous menez encore une autre démarche puisque vous êtes un homme de théâtre. Est-ce que vous pouvez nous parler de votre travail, des rapports entre l'histoire et le théâtre et de l'imaginaire là-dedans?
Oui, il va y avoir un écho certain à ce qui a été dit déjà autour de cette table, c'est que l'auteur de théâtre a une question fondamentale, c'est la question des sources. C'est-à-dire que lorsqu'on a un sujet, il y a un moment où les sources vont être lacunaires. C'est-à-dire qu'on a un manque de continuité, des fois, dans la chronologie, des choses comme ça. Donc c'est dans ces interstices que l'écrivain de fiction ou de théâtre va pouvoir s'engouffrer pour aller vers l'imaginaire, tout en ayant bien à l'esprit d'avoir la rigueur intellectuelle, évidemment, de respecter les éléments de chronologie qui sont existants et qui ont été attestés par des historiens. Donc la question des sources est fondamentale. C'est le premier travail, même pour le théâtre, quoi.
Par rapport à ça, il y a un élément central dans la tétralogie, c'est... Donc ça se passe en Irak en 1939, et effectivement, les archéologues nazis qui vont en Irak en 1939, les vrais, ils cherchent les origines de la race aryenne dans le croissant fertile, donc là où les civilisations ont débuté. Et il y a un site dont je me sers, c'est le site de Göbekli Tepe, donc à la frontière syrienne. Donc ça se situe en Turquie, frontière syrienne, et aux sources du Tigre et de l'Euphrate. Et justement, sur la part entre l'imaginaire et la part entre l'histoire, ce qui se passe avec le site de Göbekli Tepe, c'est que c'est un site archéologique qu'on peut comparer un peu à Stonehenge, et donc qui est quelque chose de l'ordre du temple, mais qui, quand on le date, correspond à l'époque où, pour tous les historiens, on se situe à une période de l'histoire de l'humanité où l'homme, à cet endroit, était un chasseur-cueilleur, c'est-à-dire un nomade. Un nomade qui ne construisait pas de bâtiments, pas de bâtiments en dur, qui se déplaçait donc au fil de ce qu'il pouvait trouver, chasser et récolter dans la nature. Donc même pas un agriculteur, même pas quelqu'un capable de faire un silo à grains ou des choses comme ça. Et le problème, c'est qu'on a trouvé Göbekli Tepe. Et Göbekli Tepe, c'est l'antithèse de tout ce que je viens de décrire, c'est-à-dire que c'est subitement une civilisation structurée. Seule une civilisation structurée, logiquement, si l'on s'en tient, on va dire, aux fondamentaux actuels en matière d'histoire, Göbekli Tepe, c'est la contradiction complète par rapport à ce qu'on pense de l'époque où ça a été construit. C'est-à-dire que si on en croit tout ce qui, pour l'instant, a été avancé sur l'état des civilisations au moment de Göbekli Tepe, les gens qui vivaient à l'époque de Göbekli Tepe, ils n'auraient pas pu faire Göbekli Tepe. Voilà. Donc ça veut dire aussi que l'histoire s'est jamais figée. Et c'est tout ce qu'on peut considérer aussi comme des vérités avérées, certaines, même dans le domaine historique, et c'est moi, ça c'est ce qui me fascine dans l'histoire, c'est que ça peut paraître figé, ça peut paraître écrit, scellé et gravé dans le marbre, et en fait, à un moment, il y a quelque chose, comme Göbekli Tepe, qui peut tout remettre en cause, et tout bouleverser. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qu'ils faisaient? Pourquoi ils ont fait ça? Et voilà, et après, on s'engouffre dedans, et puis on fait autre chose.
Ça fait penser au statut de l'île de Pâques aussi, des mystères comme ça. Vous avez commencé par publier des livres d'histoire, notamment la campagne militaire de 1870. Oui. Comment passe-t-on de l'histoire à l'histoire imaginaire?
Encore une fois, je vais me répéter. Ça marche pas, oui. C'est encore une fois la même construction mentale, c'est-à-dire la volonté de partir d'un épisode de l'histoire où on considère que tout est arrêté, que tout est figé. Il y a des explications qui ont été apportées à la défaite de la France. Je ne reviens pas sur le sujet, mais plus grande défaite militaire de tous les temps, on va résumer ça comme ça. Donc pour la guerre de 1870, où Napoléon III, en l'espace de 3 semaines, il perd son armée. Tous ces hommes, grosso modo. Donc il y a peu de comparaisons auparavant et encore moins dans la suite, parce que même 14 ou même 40, c'est pas aussi la déroute, elle est peut-être pas aussi en tout cas c'est pas 100%, voilà, qui est perdu en 40, alors que là en 1870 c'est 100%. Mais sur la façon dont on a expliqué la défaite, moi ce que je voulais faire avec la campagne de 1870, c'était justement décortiquer un peu les phénomènes militaires sur le terrain pour partir du terrain plutôt que de partir des archives, où souvent ces archives, à la base, elles reposent, on va dire, sur ce que les militaires du temps ont donné comme explication à ce qu'ils ont fait, c'est-à-dire sur les rapports d'opération. Et donc forcément, un rapport d'opération, quel qu'il soit, on essaie toujours, je dirais, de magnifier ce qu'on a fait de bien. On essaie de dissimuler un peu ce qu'on a fait de mal. Et surtout, par rapport à, je dirais, au résultat final, forcément, il y avait la volonté chez les Français, je dirais, d'occulter un certain nombre d'aspects, négatifs. Et par contre, chez les Allemands, qui, eux, étaient devenus, avaient été propulsés, je dirais, en référence absolue en termes de stratégie militaire, la volonté, justement, de s'ériger en espèce de donneur de leçons complet, dire, voilà, tout ce qu'on fait, c'est bien. Et c'est comme ça qu'il faut faire. Et d'où les deux défaites de l'armée allemande dans les deux guerres mondiales, parce que finalement, leur stratégie, elle était complètement nulle. Voilà, donc, et ça encore, sur les idées reçues, voilà, si vous êtes un peu... quand on s'intéresse un peu à la Seconde Guerre mondiale, on a toujours un peu l'idée, c'est quelque chose qui flotte un peu chez les amateurs d'histoire militaire. Ah ouais, les Allemands, avec leur, ils avaient des chars, avec le Tigre, le Panthère, ouais, c'était les meilleurs. Non, ça servait à rien. Il leur aurait fallu, au contraire, avoir une flotte performante et des sous-marins performants, ce qu'ils n'avaient pas en 1939. Il leur aurait fallu des bombardiers stratégiques parce que il fallait foutre d'abord en l'air l'industrie anglaise et l'industrie soviétique si on voulait espérer vaincre ces États-là. Et ils n'ont jamais eu d'aviation stratégique. Xavier parlait tout à l'heure des B-29. Ben voilà, les Américains, eux, ils avaient compris ce que c'était qu'une guerre moderne. Ils avaient bien compris que la première chose à faire, c'est de détruire le potentiel industriel de l'adversaire. Et le reste, on verra après, c'est juste...
Il y a eu l'erreur, la grande erreur de bombarder Londres.
Oui,
aussi,
voilà. Oui.
Il y a aussi un facteur humain qui n'est jamais prévisible.
Complètement, hein. Complètement.
C'est passionnant aussi dans l'histoire, c'est que... s'il y a une partie rationnelle qui est l'élément humain, ouais. Et bien sûr, c'est une science, mais c'est une science justement qui est une science humaine dont l'objet est... n'est pas un objet fixe comme un nombre, comme les mathématiques. Donc elle a justement cette finesse de capturer ce qu'on ne peut pas capturer, qui est l'élément humain. Mais la science aussi, c'est aussi un récit. Et tu l'as très bien dit, on peut avoir deux positions différentes sur un même événement. C'est-à-dire que l'assassinat de Kennedy, par exemple, c'est un fait. Il y a des éléments qui sont Dallas... 63, Ford Lincoln noir, ce sont des faits. Maintenant, la lecture des faits, ce qui va devenir un événement historique, c'est nécessairement, je crois que tout le monde sera d'accord, partiel et partial. Il y a une dimension humaine. Oui. L'historien, par exemple, un historien n'est jamais un historien de l'histoire humaine. Lui-même fait des choix, décide de s'intéresser à telle ou telle chose. Oui. Voilà. Et il y a aussi... cette idée qui est qu'il y a des cultures qui sont anhistoriques. Les aborigènes d'Australie ont une richesse mythique telle qu'ils n'ont pas besoin d'histoire. Et leur seule histoire est celle qui démarre peu ou prou avec les Australiens occidentaux, avec l'arrivée. Ce qui fait que l'histoire, c'est bien. Quoi. C'est,
ah ouais.
C'est un terrain de jeu, un terrain... En plus, bien sûr, de l'activité proprement historique.
Tout à fait.
Mais c'est aussi pour des gens de lettres, écrivains et hommes de théâtre. C'est formidable.
Oui, je confirme évidemment tout ce que vous dites. Parce que là, quand j'ai travaillé sur Venceslas IV, donc empereur du Saint-Empire et roi de Bohême, donc à la fin du XIVe siècle, il y avait toute la chronique qui était bien documentée. Et le sujet qui m'intéressait, c'est une légende qui a traversé les siècles au sujet de Venceslas. Et cette légende, elle perdure jusqu'à nos jours. J'ai été surpris qu'elle ne faisait que 2 pages au départ. Et elle a été écrite en plus 150 ans après la fin du règne de Venceslas. Donc ça laisse vraiment... Une marge énorme, sachant qu'à partir de 2 pages, il fallait que je fasse une pièce d'une heure et demie. Quoi. Donc, il fallait intégrer les éléments de la légende et puis, évidemment, les éléments de la chronique. Donc, on est vraiment au cœur du sujet quoi, avec ce type de travail. Quoi.
J'allais vous demander comment travaille-t-on pour écrire un récit qui s'appuie sur des faits historiques. Est-ce plus long, plus pénible que de créer un récit imaginaire de toute pièce ? Ou une pièce de théâtre ? Qui veut répondre ?
Moi, c'est partie prenante de mon activité d'auteur. Je ne pense pas ou à peine avoir écrit de la fiction hors de l'histoire. Donc, c'est toujours été le cas. C'est passionnant. Par exemple, j'ai écrit un roman qui se passe à Babylone en 600 avant notre ère. Je m'étais documenté à fond. Bon, j'avais fait des études de sciences des religions, donc pour tout ce qui était, langue, anthropologie, j'avais peu, mais j'avais quand même des bases. Et architecture, tout ça, bon. Et le héros traverse Babylone à pied. Donc c'était très bien, ça roulait, le temple, le sanctuaire, machin, nickel. Il arrive devant chez lui, là, boum, description d'une maison babylonienne, c'est super et tout. Il rentre, sa femme l'attend, et quoi ? Qu'est-ce qu'ils font les Babyloniens en 600 avant notre ère ? Ils s'embrassent, bravo. Ils se serrent la main, ils se donnent une accolade. Ben, j'ai mis 3 jours à avoir la réponse. Ouais, j'ai cherché pendant 3 jours. Donc eux, ils étaient figés dans le roman, ils étaient comme arrêtés. Et coup de bol chez Hérodote, comme quoi il faut toujours avoir les classiques à portée de main. Et à un moment, il est question d'un baiser. Bon, ben voilà, ils se sont embrassés, le récit a repris. C'est-à-dire que, bien sûr qu'il s'agit d'une fiction, mais c'est pareil pour toi. Il faut que ce soit extrêmement exigeant. Il ne faut pas faire d'erreur.
L'erreur, elle tue.
Pardon ?
L'erreur, elle tue, en fait.
Chez toi, un soldat américain, il va avoir un fusil Garand, il ne va pas avoir un M16. Moi, j'arrête.
Absolument.
Ça ne m'intéresse plus.
L'anachronie, c'est fini.
Moi, j'ai lu un livre d'un... Enfin, j'ai lu, non, j'ai arrêté. Un polar de Pelicanos, qui est quand même l'une des plumes importantes du polar américain, et qui raconte que le héros, son père... bombarder Berlin à bord de B-52. J'ai arrêté. C'est plus dans le film de Sherlock Holmes de Guy Ritchie, le docteur Watson à un moment à une soirée, il a une très belle tenue noire à passement qui est une tenue d'artilleur. Alors, quand on sait que le docteur Watson était médecin militaire dans un régiment d'infanterie, ça m'intéresse plus. C'est un minimum. Certes, c'est de la fiction, mais on ne fait pas n'importe quoi.
C'est une vraie démarche d'historien. C'est le travers de l'historien. C'est même presque la pollution de l'historien. Parce que, voilà, si je prends mon cas personnel, je lis très peu de fiction. Parce que c'est comme quand vous lisez un livre où vous détectez une faute à la première page, vous allez continuer le livre en cherchant toutes les fautes. Bon, ben c'est exactement la même chose que ce que je viens d'entendre. Quand je vois un film ou que je lis un livre traitant, une fiction traitant de l'histoire, je ne peux pas m'empêcher d'essayer de détecter la faute. Parfois, quand elle arrive à la première page, là, ou à la, je dirais au premier chapitre, ça, c'est très bloquant. Hein, quand elle arrive vraiment de manière ténue et un peu pointilleuse, bon, ça va, ça passe.
Oui, alors j'aimerais parler d'une contrainte particulière pour l'écriture de théâtre. C'est-à-dire qu'on ne peut pas multiplier les personnages à l'infini. On sait qu'à un moment, pour que ce soit mis en scène d'une façon raisonnable, on va avoir un nombre limité de personnages. Donc on est obligé de faire des choix. Et pour donner un exemple, alors je pense qu'on peut simplifier sans trahir, évidemment, hein, sans falsifier. Mais je pense, par exemple, pour revenir à l'exemple de Venceslas IV dans Le cœur et la couronne, il y a des intrigues suffisamment compliquées. On est dans un contexte du Saint-Empire romain germanique qui est assez complexe, avec en plus les prémices de la réforme avec Jean Hus qui commence à arriver. Donc moi, je suis sur une dizaine de personnages. Et il y a le Venceslas a un frère qui va lui accaparer le trône à un moment donné, Sigismond. Mais il avait un autre frère qui s'appelle Yann. J'en fais absolument pas mention. Ça aurait alourdi l'intrigue, ça aurait créé un personnage qui n'aurait pas eu spécialement d'intérêt. Donc on peut penser en voyant la pièce qu'il n'a qu'un frère, Sigismond, mais en fait. Yann a été mis de côté volontairement, quoi. C'est... on a quand même les contraintes de la dramaturgie et de la mise en scène. Quoi.
Alors, à l'inverse, on peut faussement pousser à la faute. Par exemple, dans mon premier roman, Ganesha, Mémoire de l'homme éléphant, il y a un personnage qui a un sac avec une fermeture éclair. Et un autre, un petit appareil de photographie Kodak qui peut prendre 100 photos. Et les deux choses existaient. Donc là, le Kodak était même assez vendu. La fermeture éclair n'a pas été commercialisée parce qu'elle était inesthétique, mais elle existait. C'est-à-dire on peut aussi, des petites malices, s'amuser au faux anachronisme.
C'est l'histoire de l'hélicoptère dans un film de guerre dont le nom vient de m'échapper, où on voit un hélicoptère à un moment dans la cour d'un château fort. Tout le monde a crié à l'hérésie.
Quand les aigles attaquent,
voilà, merci. Burton. Richard Burton. Ouais. Voilà, à un moment on voit un hélicoptère. Donc,
Leur coupe de cheveux dans le film.
Non, ouais, voilà. C'était pour juste rebondir sur ce que vous disiez tout à l'heure. Effectivement, on travaille de la même manière, toi et moi. Effectivement, le point de départ, c'est d'abord la source historique. Et surtout quand on parle de Seconde Guerre mondiale, il faut déjà se garder, bien évidemment, de faire la moindre erreur de mauvais goût, comme ça, avec un hélicoptère ou avec un B-52, ça c'est certain. Et secondo, sur les aspects, je dirais, à la fois complexes et horribles de la période, il faut aussi être très rigoureux et respecter, je dirais, le fond de ce qui pouvait habiter les personnages historiques, et aussi décrire la période en essayant d'être le moins caricatural possible. Moi, j'ai travaillé avec des copains historiens allemands parce que, comme j'ai des persos qui sont des Allemands, et le personnage central notamment, donc je ne dis pas le héros, je dis bien le personnage central, qui est un SS et un espion nazi. Justement, le principe, c'était aussi de le présenter de la façon la plus rigoureuse et la moins caricaturale possible. Là, la saga, elle renvoie souvent à un imaginaire autour des aventuriers de l'arche perdue, des choses comme ça, Indiana Jones. L'idée, c'était justement que mes nazis ne ressemblent pas à ceux d'Indiana Jones. Voilà, le côté toujours un peu... comment dire, grotesque et fanatique, justement. Il faut pas, enfin voilà, il faut, se, faut pas oublier que c'est d'abord des politiciens qui manipulent les masses, hein, donc le fanatisme, il est pas nécessairement dans leur personnalité à eux et dans ce qu'ils font, elle est dans ce qu'ils réussissent à obtenir des masses et du contrôle qu'ils obtiennent sur les consciences du peuple allemand. Mais eux-mêmes étaient beaucoup plus cyniques que grotesque, en fait. Hein.
Justement, sur le fanatisme, je rebondis parce que c'est par exemple, dans le phénomène kamikaze est beaucoup plus compliqué que l'idée qu'on en a. On pense que tous, dans un bel élan patriotique, sont jetés sur des porte-avions. Mais par exemple, l'idée des pilotes suicides est une idée de l'aviation marine, parce que l'aviation n'était pas une arme dans l'armée impériale, tandis que les aviateurs de l'armée de terre, comme ils avaient fait la guerre du Nomon Han, micro-guerre dans les années 20 contre les Russes, eux disaient on est des vétérans, et pas question de... Ils parlaient même de romantisme morbide, c'était des vétérans, etc. Et juste, je voulais dire que, bien sûr... toute proportion gardée, mais l'œuvre de fiction, d'imaginaire, permet peut-être à des lecteurs qui ne seraient peut-être pas allés à la source, ou tout du moins au livre d'histoire, là, de référence, peut-être d'avoir envie d'y aller.
Je rebondis sur l'histoire des kamikazes. Beaucoup ont confondu kamikazes et samouraïs. Qui ont confondu ces deux mythologies complètement. Quand on étudie la personnalité de ces aviateurs kamikazes, c'était tous des gamins. Hein, il y a très peu de gars qui ont plus de 20 ans. Hein. C'est tous des gamins qui se retrouvaient là et dont on ne leur a pas donné le choix. Et de toute façon, le phénomène kamikaze de la Deuxième Guerre mondiale vu par les Japonais est un roman national aussi. Voilà. Donc, de fait, après, on se heurte là aussi à l'utilisation... donc politique de l'histoire, qui est la définition même du roman national. Et là c'est infini.
Vous pointez du doigt de central dans les guerres, c'est l'âge du kamikaze. C'est-à-dire que, par exemple, au Vietnam, l'âge moyen du soldat tué au combat chez les Américains, c'est 19 ans. Et je dirais, là, je pense à la guerre de 1870. C'est l'enseignement de la guerre de 1870, c'est chez les Allemands. On a une armée de conscrits, donc une armée de jeunes hommes, 19, 20 ans. Et chez les Français, on a une armée de métiers à l'époque. Donc des gens qui rempilent, qui ont fait toutes les campagnes du Second Empire, hein, la Crimée. Donc ils sont beaucoup plus vieux. Donc déjà, ils fatiguent plus vite. Ils sont plus enracinés sur des méthodes qu'ils ont apprises en Outre-mer, donc dans des conflits qui n'ont rien à voir avec le champ de bataille européen. Et surtout, ils n'ont pas, comme le kamikaze qui est donc jeune, ils n'ont pas cet esprit de, comment dire, genre, je m'en fous si je meurs, quoi. Et un petit côté, évidemment, l'inconscience de la jeunesse, où on va aller au feu, bah, finalement, sans trop réfléchir à ce qu'on fait. Et parce que tout bêtement, on n'a pas encore cet instinct de conservation qui s'enracine sans doute un peu plus tard dans la vie d'un homme. Et où voilà, quand vous avez 18 ans, vous faites des conneries et vous mettez votre vie en danger, je sais pas, au volant d'une voiture ou je ne sais trop quoi, à grimper je ne sais trop où. Et par contre, quand vous allez en avoir 40, bah, vous allez arrêter tout ça et vous allez dire, ah bah oui, mais si là je grimpe là-dessus, je vais tomber et je vais me tuer. Donc, voilà, tout ça, les militaires l'ont bien compris. C'est pour ça que, généralement, les gens qui vont au feu, ils ont moins de 20 ans, effectivement.
Oui, je rebondis sur cette notion de roman national qu'on peut trouver... Enfin, moi, je l'ai trouvé en travaillant sur Venceslas IV, justement, parce que la légende sur Venceslas donc, se résume à deux pages écrites au XVIe siècle, donc a posteriori, et à une iconographie, donc des fresques qu'on peut voir à Prague, mais il y a juste une petite mention dans les guides touristiques, mais après il faut vraiment creuser pour trouver d'autres mentions de cette légende. Et en fait, pourquoi cette légende a été perpétuée alors que Venceslas IV a une réputation assez exécrable? Et je me suis dit qu'à un moment, peut-être que dans le roman national tchèque, ça permettait aussi de si vous me permettez l'expression, de sauver le soldat Venceslas, c'est-à-dire de le sortir de sa réputation exécrable pour, à travers la légende, restaurer l'image d'un monarque qui, en fait, n'a pas été pire que les autres à l'époque, dans un contexte extrêmement féroce. Et ce que j'ai remarqué dans mon travail sur les sources, c'est que toute l'historiographie germanophone est complètement à charge contre Venceslas. Et il ne faut pas oublier que la Bohème était sous domination autrichienne pendant des siècles, donc ce qui explique certainement cela. Donc il y a un moment, il faut prendre un recul par rapport à l'historiographie, par rapport aux sources, et essayer de faire la part des choses si on peut, quoi.
Il y a un autre concept par rapport à ça, c'est la dictature du témoignage. Ça, on rentre ça également là-dessus. L'utilisation axée du témoignage. Et ça, c'est aussi... C'est une phénoménologie qui mérite elle-même le statut d'être décryptée de manière scientifique afin, justement, de découper ce témoignage en tranches et d'où l'intérêt du statut du témoin. Et ça, pour la Première Guerre mondiale, qui est une période que je connais mieux, ce décryptage du statut du témoin est une notion très, très récente. C'est une notion qui n'a pas 20 ans. Jusqu'à présent, ont été publiés des témoignages, mais rétablir le statut des témoignages est une notion très très récente. Et c'est une notion tout à fait intelligente, parce qu'en fait, à l'étude du statut du témoignage, on s'apercevait que jusqu'aux années 80, les témoins publiés étaient inversement proportionnels à leur proportion dans l'armée. En gros, vous aviez de nombreux témoignages d'intellectuels qui parfois arrivaient à s'extraire du front, alors que les témoignages paysans ouvriers étaient... Norton Crewe, dans son édition de 1929, témoin, ne critique aucun témoignage d'ouvriers, de plébéiens ou de paysans. Zéro. On a republié un ouvrage il y a quelques années qui s'appelle 500 témoins de la Grande Guerre. Là, on a rétabli cette balance normale qui était la stratigraphie militaire de la Première Guerre mondiale, à savoir beaucoup plus de témoins issus de la stratigraphie normale de l'État, parce que ce n'est pas l'armée, c'est la nation. L'armée n'est pas la nation. L'armée, c'est juste une partie de la nation et c'est une partie qu'on peut considérer de manière parfois caricaturale comme élitiste en termes de métier. C'est une armée de métier. Si vous mobilisez l'ensemble de la nation, vous allez avoir l'ensemble de la stratigraphie de la nation. Or, au niveau des témoignages, il n'y avait pas de témoignages plébéiens.
Est-ce que les lettres des soldats du front vont dans le sens justement de cette analyse des témoignages? Parce que je crois qu'on en a republié depuis, on en a retrouvé, et là, ils nous décrivent vraiment la réalité du terrain.
Si on prend la correspondance, là aussi, le support testimonial, il y en a de différentes sortes, le support testimonial est lui-même à analyser. Parce qu'en fait, la correspondance, finalement, n'est pas le meilleur vecteur de vérité que l'on trouve quand on veut faire parler ou quand on veut donner la parole à un témoin. En effet, l'ensemble des lettres qui ont été envoyées est triplement soumise à une censure. L'autocensure. Quand vous vivez des situations déplorables, vous n'allez pas l'écrire à votre femme, vous n'allez pas l'écrire à votre mère, peut-être l'écrirez-vous à un copain ou éventuellement à votre patron, mais à aucun moment vous allez dire à votre femme l'horreur de la tranchée. Ce n'est pas la peine de lui rajouter de l'angoisse à de l'angoisse. Donc il y a énormément de volets de réalité en fonction du destinataire de la lettre. Ça, c'est la première, c'est l'autocensure. La deuxième, c'est la censure militaire. Vous ne pouvez pas de toute façon dire ce que vous voulez, sinon votre lettre, c'est un échantillonnage. Hein. On a tendance à penser que l'ensemble des lettres avait été visées. Non, il y a entre 4 et 5 milliards de lettres qui ont été écrites pendant la Grande Guerre. C'est moins de 3% qui ont été à un moment vues par un échelon de commandement global. Donc, une grande masse passe par les mailles du filet. Mais il y a cette censure-là qui est quand même une crainte du soldat. Et puis la troisième, c'est la censure sociale. Vous n'écrivez pas tout ce que vous voulez. C'est pas du SMS. Hein. La lettre A, c'est quelque chose qui est susceptible d'être lu, puis c'est quelque chose qui est susceptible d'être montré à l'écriture, mais également à la lecture. Et donc, vous n'écrivez absolument pas ce que vous pensez vouloir dire. C'est le problème de la sexuation des correspondances, par exemple. Déjà, ça dégage. Voilà. Donc, en fait, la lettre, finalement, paradoxalement, qui pourrait être, je dirais, l'ouverture du cœur sur papier, eh bien, on n'est absolument pas le meilleur vecteur. Le meilleur vecteur de la guerre de 14, c'est l'auto-journal. Le journal que le soldat se fait à lui-même pour pouvoir refaire un récit narratif, son roman national à lui tout seul, ultérieurement. C'est le seul. Les autres sont tous soumis à des divergences en termes de contenu.
Dites-moi si je me trompe, mais la guerre de 14-18, après, il n'y a pas de prise en compte du syndrome post-traumatique. Ce qui vient, par exemple, avec la guerre du Vietnam chez les Américains. Chez les Soviétiques.
Oui, avec Korsakov.
Freud fait son travail là-dessus.
Il fait son travail.
La guerre de 14 sera son laboratoire.
Soldats ne sont pas, entre guillemets, soignés psychologiquement. On est d'accord.
C'est les prémices. Ce sont les prémices.
Chez les Soviétiques.
Chez les Soviétiques.
Étonnamment. Oui,
voilà.
Oui.
Donc, ce côté-là, moi, je l'aborde dans les récits, puisque, en fait, je parle forcément de personnes qui ont entre 30 et 40, enfin, plutôt 40 ans en 1939. Donc, des gens qui ont fait la Première Guerre mondiale, avec ce côté. Avec le côté déshumanisant que toutes les guerres, mais et à plus forte raison la guerre de 14-18, avait eu chez ces gens, quelque chose qui est pris en compte aujourd'hui pour expliquer la Shoah, l'Holocauste, les nazis, leur comportement, je dirais, entre guillemets, psychopathe, il est quelque part nourri, il trouve son origine dans la guerre de 14-18 et dans cette espèce de, comment dire, de choc psychologique qu'ils ont connu, qu'ils ont vécu en étant des combattants de cette guerre et en ayant survécu, et quelque chose qui a, qui n'a pas été pris en compte par les médecins de l'époque, parce que tout bêtement, on en était aux prémices avec Freud, et on n'était pas, comme pour ce qui concerne les guerres du Golfe ou la guerre du Vietnam, en train de se dire, il va peut-être falloir soigner leur plaie physique, mais aussi leur plaie mentale. sociale. Et quelque part, cette génération qui a fait les tranchées et qui a pris le pouvoir derrière, elle a fait des trucs horribles, tout simplement parce qu'elle avait perdu son humanité pendant la guerre de 14-18.
Il y a un très bon livre sur l'histoire du traumatisme de guerre. C'est de Gabriel, qui était psychologue militaire au Pentagone, qui a écrit un livre qui a été traduit chez Albin Michel, qui s'appelle « Il n'y a plus de héros », et qui raconte ce qu'on peut, alors bien sûr sans rigueur historique, dans les récits de Xénophon, par exemple, considéré déjà comme un aveu, jusque... Alors, Custer est un fragment du 7e de cavalerie raconté par les survivants, puisque cette partie-là du régiment est morte. Et surtout, il en arrive au conflit moderne, et il raconte que, par exemple, une grande leçon à tort de la guerre de Corée a été de penser qu'il fallait envoyer des gens stables et équilibrés. Donc au début, au Vietnam, c'était la foire à la farfouille, jusqu'au moment où dans le Bronx, à Harlem, il disait aux jeunes, bon, il surchargeait les peines, soit pour ça tu vas 15 ans en prison, soit tu vas au Vietnam. Et là, il y a des gens qui, ayant un comportement anormal, se sont retrouvés dans des situations anormales et qui ont été des héros multidécorés.
C'est très intéressant débat qu'on pourrait encore poursuivre sur le sujet. Je vais vous poser encore une question. Est-ce qu'il y a des époques qui se prêtent mieux que d'autres pour développer des aventures imaginaires?
Si vous voulez faire un thriller uchronique d'action avec René Coty, c'est mal barré. Hein.
C'est ça. Ouais. Ou alors c'est OSS 117. Et là, on n'est pas. Et voilà.
Pour le coup, là, Pétain serait plus adapté.
Hein. Oui, il y a des personnages plus sexy que d'autres. Ouais, effectivement, dans l'histoire, ouais, il y a des. La 4e République, ouais. Ouais, bof.
Par rapport à ce que vous disiez tout à l'heure sur la vérité historique, il y a une anecdote qui me revient, c'est Stéphane Beauverger qui, dans le Déchronologue, a écrit Les aventures de pirates, c'est un livre magnifique. Si vous ne l'avez pas lu, ça vaut aussi la peine. Parce que c'est un bateau pirate qui voyage dans le temps. Et il a écrit tout son bouquin en mettant en scène des pirates qui boivent du rhum. Et puis quand il est arrivé à la fin, il s'est rendu compte que par rapport à l'époque, le rhum n'existait pas. Et alors il a dû tout transformer. Il a fait boire du tafia. Il buvait du tafia à l'époque, une espèce de boisson. C'est marrant quand même. Savez-vous que j'ai vu des photos des grognards de Napoléon? Des photographies des grognards de Napoléon. J'ai vu des photographies de vieux messieurs qui avaient revêtu l'uniforme qu'ils portaient quand ils étaient jeunes dans les armées de Napoléon. Parce que la photo a été inventée et c'était tous des vieux bonhommes qui portaient ces costumes. Mais ça, c'est par rapport à ce que vous disiez avant, ça m'évoque une idée qui pourrait être intéressante. Ce serait de développer un roman historique avec justement des choses improbable et qui serait peut-être possible de mettre en scène. On serait peut-être pas loin du steampunk, mais enfin, ça, je trouve assez intéressant comme idée.
Le matériau pour le faire, dans votre idée, c'est la presse. Parce qu'il y a eu, et y compris d'ailleurs dans la bibliographie de la Première Guerre mondiale, il y a un lien filial entre les grognards et le poilu. C'est quelque chose, le poilu est vraiment, dans le roman national, le descendant du grognard. Et si vous lisez dans la presse, il y a la mort des derniers grognards et leur filiation. Et l'entre-deux, eh bien, c'est également l'implication des anciens de 70, qui rempilent en 14, et pour lequel on magnifie également la chose. Et là où c'est encore plus magnifié, c'est pas très très loin d'ici, de l'autre côté de l'ancienne crête frontière, eh bien, c'est l'engagement des anciens, des Alsaciens, qui avaient vécu 70 et qui vont bien entendu adhérer à la libération de leur territoire en rempilant du bon côté de la frontière. Donc il y a toujours en fait une sorte de lien temporel qu'on fait, qui est travaillé entre les différents grands conflits. 1814, 1870, 1914 et
Par contre, là, et là, il faudrait rechercher, je ne l'ai pas fait, mais ce serait intéressant à faire, de voir quel est exactement le lien filial entre la guerre de 14 et la guerre de 39-45. Sauf que les deux guerres sont mondiales et que la période n'est pas très, très éloignée. Ça concerne beaucoup. Mais comment l'image, en fait, de l'ancien poilu va transparaître dans la Deuxième Guerre mondiale, c'est quelque chose à gratter.
La seule chose que je pourrais dire par rapport à ça, c'est une statistique qui a été faite sur le théâtre européen en 1944. Les militaires américains ont cherché à savoir, ils ont interrogé tous les officiers qui avaient vraiment été au feu, donc sur le théâtre européen, donc depuis le débarquement en Normandie jusqu'à l'Allemagne. Et leur statistique, c'est il y a 25%, enfin moins de 25% des soldats engagés en première ligne dans l'armée américaine en 1944 ont utilisé leur arme. Voilà. Tous les autres n'ont jamais tiré. Et je parle bien des unités de combat engagées. C'est-à-dire que même une unité engagée, il y avait 3 mecs sur 4 qui se couchaient par terre et qui attendaient que ça se passe. Et ça, c'est sans commune mesure avec justement par 14 et évidemment encore moins avec 1870 et toutes les périodes napoléoniennes. C'est-à-dire, on ne peut pas imaginer à Waterloo un mec qui ne se sert pas de son fusil parce que tout de suite, il va prendre un coup de sabre mais dans le dos, ce sera son officier qui va lui dire « qu'est-ce que tu fais ?» Donc la perte de contrôle déjà est d'une de l'officier qui n'est plus au contact pour obliger son soldat à combattre, c'est déjà un fait acquis pendant la Seconde Guerre mondiale. Mais aussi, il y a la structure sociale des États-Unis d'Amérique, où on se retrouve avec des gens qui viennent essentiellement de villes, qui sont plus des petits paysans, comme en 14-18, des petits paysans français, voilà, pas beaucoup d'instruction, bien encadrés depuis la naissance avec l'instruction scolaire, qui savent qu'il faut marcher en rang, qui savent qu'il faut obéir au maître, qui savent que, tout ça, ils ont été bien formés, et malheureusement, ils vont y aller, voilà. L'Américain, lui, il a un autre niveau, en 39-40, il a un autre niveau d'éducation et de culture, hein. Il a déjà l'habitude d'aller au cinéma, de sortir en voiture avec les filles. Enfin voilà, on est déjà plus dans un phénomène moderne. Et donc ces gars-là, quand ils sont au feu, ils réfléchissent plus que leurs prédécesseurs. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils ont le seul comportement humain normal. Quand on vous tire dessus, vous vous cachez pour pas vous faire tuer. Voilà.
Je vois que l'heure a tourné. Je ne sais pas si on a encore le temps de demander au public s'il y a une question à poser dans le public. Je vous demande, est-ce que quelqu'un a une question? Oui?
Alors, je vais répondre en faisant un léger pas de côté, non pas des historiens, mais une source fiable, disons, de manière générale. Pour un roman, je cherchais une drogue en 1969 qui produisait tel et tel effet. Donc, toujours par souci d'exactitude, pour ne pas inventer n'importe quoi, j'ai contacté un laboratoire pharmaceutique qui d'abord a vérifié auprès de mon éditeur que j'étais bien un auteur, et puis qui après m'a envoyé un catalogue raisonné des drogues avec leur historique, les effets, etc. Donc je n'ai pas contacté un historien, mais une source fiable quand même, qui pouvait vérifier les faits, et qui était là justement très, très ouverte, et voilà. Il y a des collaborations agréables et c'est pas très difficile en général.
Je ferai la même réponse. Toujours une source fiable et en fonction de la question qu'on se pose. Un astrophysicien pour Club Uranium, Roland Lehoucq, hein, pour ne pas le citer.
Roland Lehoucq, dans le prochain qui sort en septembre, je voulais piéger. C'est un meurtre en chambre close, mais avec trois chambres qui sont emboîtés, Et donc, j'avais besoin de pièges explosifs en 1909, comme j'y connais rien, bah, pareil, on
tout
est
à fait.
Ouais, bah, Roland, oui. Qu'est-ce que tu peux me faire avec ça?
Absolument.
C'est toujours aussi agréable.
Moi, il m'a fait une bombe atomique dans ma cave, donc ouais, c'était. Ouais.
Alors, à ce propos, là, il y a quelque chose qui est vraiment intéressant par rapport aux personnes qui m'ont commandé la pièce Si les pierres voulaient parler. Donc, c'est une association qui est au Magic Histoire qui s'appelle l'Hebdo Chapelle Templière. Donc, c'est une association qui est consacrée à la restauration de la chapelle templière de l'Hebdo à une dizaine de kilomètres de Toul. Et ils ont fait évidemment des recherches assez poussées. Hein. Il y a des historiens évidemment dans l'association. Et ils ont retrouvé la formule d'un médicament ramené par le commandeur Gaspard de Pernes en 1682. Donc ça s'appelle le baume du commandeur. Ils ont retrouvé la formule dans l'historique des drogues, je crois, de Pomé en 1694, si je me souviens bien. Ils ont retrouvé la formule et ils ont demandé à un pharmacien actuel de refaire le baume du commandeur et ils ont redonné vie au baume du commandeur. Donc je trouve que c'est un beau clin d'œil entre les sources et puis l'imaginaire que ça peut recouvrir aussi et puis une réalisation concrète, quoi. Donc je vous invite d'ailleurs à aller voir le stand de l'Hebdo au Magic Histoire.
Je vais juste me permettre la réponse de l'historien, c'est qu'en fait, beaucoup moins les romanciers que les documentalistes ou les fictionnaires, mais sur support visuel, c'est-à-dire ceux qui vont créer des téléfilms ou des films, parce que le roman autorise, parce qu'il y a moins de descriptions souvent, le roman autorise plus de flou, alors que l'image, jamais. Donc là, pour le coup, très en amont, et déjà dans le scénario, il y a en effet une symbiose assez importante avec l'historien, parce qu'il faut d'abord que ce soit crédible, et après, il faut que ça puisse répondre à une ambiance qu'on n'est pas obligé de reporter dans un roman papier, entre guillemets. Et donc là, pour le coup, les contacts sont beaucoup plus fréquents avec les professionnels de l'image plutôt qu'avec les professionnels de l'écriture.
Eh bien, messieurs, merci beaucoup pour toutes ces échanges d'idées. Je retiens qu'un prochain roman pourrait s'appeler Le Baume du Commandeur, ce qui fait un très joli titre. Et puis, je voudrais vous remercier beaucoup pour avoir animé cette table ronde. Et je vous invite, bien entendu, à retrouver les auteurs sous la tente pour vous faire dédicacer leur ouvrage. Et merci encore et bonne fin de festival.
Merci beaucoup.